Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 28 janvier, dernière émission de la semaine où on va parler évidemment aujourd'hui de cette opération Galette des Rois qui se termine, mais il reste encore quelques jours évidemment, nous sommes encore en janvier, c'est encore le moment de manger des Galettes des Rois et aussi ainsi de participer à soutenir l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers de France. On va en parler avec Anthony Dersoir, le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, et puis on va aussi s'intéresser à l'association EFA 53, Attendez, je regarde mes petites notes. EFA pour Enfance et Famille d'Adoption en Mayenne, voilà comme ça, si vous avez bien l'acronyme. Donc association qui accompagne les familles qui justement sont dans cette démarche d'adoption ou qui ont déjà d'ailleurs adopté. Il y a d'ailleurs un film qui sera projeté lundi soir au cinéma de Château-Gontier, C'est toi que j'attendais, en partenariat justement avec EFA 53. Et puis, vous avez de la chance aujourd'hui, hein, puisque comme certains vendredis, on vous offre deux chroniques pour le prix d'un. Et oui, et ce sera le cas aussi ce vendredi, avec une chronique consacrée au e-sport, avec Steven, et puis une chronique de Zélie, notre stagiaire de cette semaine, qui va nous expliquer un petit peu tout ce succès d'Orelsan ces derniers temps. Ça, ce sera en fin d'émission. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec aujourd'hui les professionnels de la psychiatrie dans la rue, à l'appel de la CGT et de Force Ouvrière. À Laval, ils manifestent cet après-midi contre les fermetures de lits, mais aussi pour pointer le manque de médecins dans le service de pédopsychiatrie, et plus globalement, le manque de personnel. Au total, selon les syndicats, il manquerait 17 professionnels et 5 médecins. Les Pays de la Loire sur le podium des régions où le virus circule le plus. Selon l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence dans la région atteint désormais 4218 cas pour 100 000 habitants, ce qui place les Pays de la Loire au second rang des régions françaises, derrière Auvergne-Rhône-Alpes. Le taux de positivité s'établit à 40% au niveau régional, c'est le plus élevé de France. Et d'après le rectorat, plus de 1200 classes ont fermé, dont 101 en Mayenne. À Ouasso ce matin, deux personnes intoxiquées au monoxyde de carbone. Vers 9h au lieu dit Neuville, à Ouasso donc, les pompiers sont intervenus pour une intoxication au monoxyde de carbone. Deux personnes ont été touchées. Une d'elles a été transportée au centre hospitalier du Nord-Mayenne en état d'urgence relative. La Confédération paysanne de la Mayenne interroge les élus sur le mal-être agricole. Le syndicat a rencontré hier le conseil départemental pour un échange autour du mal-être des agriculteurs. L'organisation déplore des personnes de plus en plus isolées sur leurs fermes, dans une course au volume et à la surmécanisation. Selon leurs chiffres, 20% des agriculteurs sont dans une situation fragile financièrement. Et puis à la cantine, 100% des viandes seront mayonnaises en 2023. C'est un engagement du département, alors qu'aujourd'hui déjà plus de 85% des viandes servies dans les collèges mayennais sont des viandes du département. Ce sera donc 100% l'année prochaine. Et puis à noter que dès le 1er mars, toutes les viandes proposées dans un lieu de restauration collective devront avoir une mention d'origine, comme c'est déjà le cas pour le bœuf. On passe au sport avec, pour les tangos, pas de match de championnat ce week-end, mais pas de repos non plus, puisque le Stade Lavallois accueille cet après-midi la réserve d'Angesco, une équipe de National 2, pour un match amical. Rencontre prévue à 15h au Stade Francis Lebasserre. L'entrée est gratuite. Et puis, le dernier week-end de janvier arrive, c'est l'occasion de déguster encore une galette des rois, le tout en faisant une bonne action, puisque dans cette boulangerie du département, pour chaque galette achetée, 1 euro est reversé à l'œuvre des pupilles pour les orphelins des sapeurs-pompiers de France. Une initiative portée depuis 2 ans par les amicales de pompiers locales, regroupées au sein de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Anthony Dersoir en est le président.
C'est un partenariat qui a été lancé au sein de l'Union régionale des sapeurs-pompiers du Grand Ouest il y a 2 ans maintenant. C'est la troisième année où 1 euro par galette est reversé à l'œuvre des pupilles. L'œuvre des pupilles, c'est une association nationale qui gère les pupilles de sapeurs-pompiers décédés. Voilà, donc en Mayenne, c'est 31 enfants qui sont pris en charge par l'association et 16 familles qui sont endeuillées. Pour la France, c'est à peu près 1490 enfants. L'Union départementale, on fédère les 46 amicales qui sont dans chacun des centres d'incendie et de secours de la Mayenne. Donc c'est l'amicale locale qui a pris contact avec les boulangers locaux pour lancer cette opération. Nous centralisons les dons qui sont faits au travers du 1 euro par galette et seront reversés à l'œuvre des pupilles au moment du congrès national des sapeurs-pompiers qui sera au mois de septembre à Nancy. Pour cette année, nous avons 7 boulangeries partenaires de cette opération-là. Grâce aux sapeurs-pompiers de Bouer, la boulangerie de Bouer et de Grèzes-en-Bouer, Nous avons deux boulangeries aussi sur liées à l'amicale de Port-Briet. Nous avons aussi une boulangerie sur Bilaine, Saint-Denis-Gâtine et Montsûr. Lorsqu'un papa ou une maman sapeur-pompier décède, leurs enfants sont pris en charge jusqu'à leur 25e anniversaire. C'est-à-dire que ça va être sous la forme de fonds qui vont être versés ou de matériel type ordinateur ou participation au permis de conduire, des choses comme ça. Ou parfois aussi on peut rencontrer des familles qui sont dans le besoin financièrement. Mais rien n'empêche qu'un jour un pupille de sapeur-pompier rencontre une difficulté à 30 ans, 40 ans, peut faire encore appel. On est pupille de sapeur-pompier toute sa vie.
Et on peut d'ailleurs être aussi pupille de la République pour ceux dont le parent est décédé en service commandé. En tout cas, pour soutenir l'association, l'opération se poursuit. Eh bien, c'est simple, tant qu'il y a des galettes des rois en vitrine chez votre boulanger qui participe à l'opération. On va parler de cette association qui intervient en soutien auprès des familles dans un processus d'adoption ou des familles qui ont déjà adopté un enfant. Mais ce sera juste après avoir écouté Marcus Miller avec Keep Em Running.
Thank you.
Bruce Miller, Keep 'em Running dans la JT du local. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on va passer donc à notre interview avec ce film de Stéphanie Pilonka, C'est toi que j'attendais. Film diffusé au cinéma de Château-Gontier lundi soir. Au titre très évocateur pour les familles qui veulent ou qui ont adopté un enfant, une proposition du service Adoption, Filiation et Tutelle de la Protection de l'Enfance du département, en partenariat avec plusieurs associations sur cette soirée, dont EFA 53, Enfance et Familles d'Adoption en Mayenne, l'occasion de se pencher sur les missions et activités de cette association qui regroupe 51 familles adoptantes, un chiffre en hausse par rapport à l'an dernier.
Je suis Aurore Bibron, coprésidente d'EFA, Enfance et Familles d'Adoption de la Mayenne. Et moi-même, je suis adoptante d'un petit garçon.
Et Nicole Martin, coprésidente également d'Enfance et Familles d'Adoption de la Mayenne, également maman adoptante d'une grande fille maintenant, puisqu'elle a 14 ans.
L'association donc EFA 53, Enfance Famille d'Adoption, n'est pas forcément très connue, en tout cas je pense pas par tous nos auditeurs. Est-ce que c'est possible de faire un petit retour en arrière historique sur sa création et puis ses missions principales?
L'association a 60 ans depuis, enfin 61 ans cette année, en Mayenne. Elle dépend d'une fédération qui est nationale. Qui donc ensemble on aide, en fait on est là pour aider les familles adoptantes. On est là pour donc les soutenir dans leurs projets et les conseiller. Donc le but étant, alors pas de leur proposer des enfants à l'adoption, hein, nous on fait pas ça, ce sont des organismes qui font ça, qui sont agréés. Nous on est là pour le soutien, le conseil des familles adoptantes. Pour adopter, il faut qu'on ait il faut d'abord rencontrer une assistante sociale, une psychologue. Ça peut être rebutant, ça peut faire peur. Et on se dit, bah, les parents bio ne rencontrent pas. Bah, ils devraient. On aurait peut-être moins de problèmes parfois avec certains parents. En attendant, nous, notre but, c'est justement de conseiller les parents en leur disant, voilà, ne vous sentez pas jugé, tracez votre chemin avec eux, ils vous aideront à monter votre projet, à ficeler le projet d'adoption.
Par quel parcours vous devez passer justement jusqu'à cette fameuse adoption ?
Déjà, on doit faire une demande d'agrément au département qui est toute une procédure. Donc, on va rencontrer trois fois l'assistante sociale et trois fois la psychologue ou le psychologue. Et ensuite, on aura un agrément ou pas, en fonction de ce qui s'est vu durant les rendez-vous. Une fois qu'on a cet agrément, on peut postuler pour l'adoption nationale. Donc là, on va être inscrit sur... on s'inscrit pour l'adoption nationale et on peut aussi postuler pour l'adoption à l'international et là on va passer par les organismes dont on a parlé tout à l'heure, les organismes agréés pour l'adoption. Donc c'est un parcours très long, que ce soit en national ou à l'international, assez difficile, donc il faut vraiment être très patient et s'armer de courage aussi parce que c'est beaucoup de documents administratifs à fournir.
Il faut parfois plus d'un agrément. Un agrément dure 5 ans. Au bout de 4 ans, il faut vraiment que les deux agréments soient joints. Donc, au bout de 4 ans, déjà, il faut commencer à réfléchir. Est-ce qu'on continue dans le projet? Est-ce qu'on s'arrête là? Il y a des personnes qui arrêtent, hein, qui trouvent que c'est trop difficile, trop compliqué. D'autres qui continuent dans le projet, qui demandent un deuxième agrément, parfois un troisième. Donc, ça va entre le temps d'adoption, ça peut aller entre 2 ans et demi, Et c'est arrivé jusqu'à 11 ans. La loi prévoit 9 mois de préparation pour obtenir l'agrément. À partir du moment où on dépose le dossier, on a le service adoption, enfin l'État, a 9 mois pour nous répondre. En Mayenne, ces 9 mois sont respectés. Il faut savoir qu'il y a des départements où à une époque, ça approchait des 2 ans. Et après, c'est d'autant plus long que les pays... se ferme d'abord à l'adoption internationale pour essayer que les enfants soient adoptés, de faire en sorte que les enfants soient adoptés dans leur propre famille. S'il n'y a pas possibilité, donc parfois ils vont chercher jusqu'à 6 générations. Donc ça fait loin, ça prend du temps. Après, ils vont chercher une adoption en national. Là aussi, ça va prendre du temps. Et après seulement, s'il n'y a plus de possibilité, ils vont mettre l'enfant à l'adoption à l'international. C'est pour ça que maintenant, les enfants qui arrivent en adoption à l'international, sont les mêmes que ceux qui sont adoptables en France, c'est-à-dire que c'est des enfants grands ou des fratries ou des enfants avec une maladie qui n'est pas soignable là-bas. Et c'est pour ça qu'ils vont pouvoir le proposer à l'adoption à l'international.
Quel est le rôle ou quels sont d'ailleurs les rôles de l'association dans ce parcours en accompagnement des parents ?
On va proposer des temps de rencontre entre les parents, alors les postulants, mais aussi les parents qui ont déjà adopté. Des temps d'échange où on va pouvoir confronter nos difficultés, que ce soit par rapport à l'attente de certains. Ça peut aussi être difficulté une fois que l'enfant est arrivé. Donc, on propose des groupes de parole, des cafés parents avec des thèmes précis, avec une animatrice qui est là pour
gérer en fait le sujet que l'on a choisi au départ. On a des ateliers, on fait des soirées jeux, alors complètement de façon complètement informelle, mais finalement comme on est tous entre parents adoptants, ça permet que chacun se libère un petit peu des choses que les autres, c'est pas qu'ils peuvent pas comprendre, mais quand on adopte et qu'on attend longtemps, on entend des phrases qui sont difficiles à entendre, genre mais comment ça se fait avec tous ces enfants, comment ça se fait que vous n'en avez pas déjà. On a conscience que les gens disent ça pour nous encourager, mais en même temps ça peut faire souffrir. Donc on échange, puis il y a certains qui en souffrent plus que d'autres, donc ceux qui en souffrent moins permettent aux autres de prendre du recul sur ces phrases-là. C'est vraiment l'essence de l'association, c'est vraiment l'échange de nos expériences, le partage de des choses qui nous font souffrir pour ou qui nous ont fait souffrir nous quand on était jeunes adoptants et qui peuvent aider des petits détails qui peuvent aider. On met en place aussi des conférences au moins une fois par an. Le pique-nique est un temps très très important de notre association puisque on y va avec nos enfants. Enfin moi j'y allais puisque les ados maintenant voilà c'est plus compliqué. Ça permet aux gens qui ont du mal à se projeter avec un enfant d'une couleur différente ou à se poser la question, bah oui, j'ai pas porté l'enfant, est-ce que le lien va se faire? Et une fois qu'ils nous ont vus avec nos enfants, la question se pose plus. Ils voient que le lien se fait, c'est systématique. Et puis là, cette année, on va avoir aussi un groupe de parole avec des psychologues. C'est des moments aussi très riches, très forts. Chacun donne un peu de soi. C'est une association, on se livre beaucoup.
Comment est-ce que vous êtes entré d'abord le premier contact avec l'association et en quoi ça a été important justement dans l'histoire de chacune?
Je peux commencer par moi qui était un peu allergique à ce genre de choses. Je m'étais dit jamais je ferais ça, jamais j'irai dans ce genre d'association parce qu'une fois que voilà mon enfant sera adopté, ça sera mon enfant et puis voilà. Sauf que en fait j'ai rencontré une personne qui était adhérente à l'association, qui m'a entraînée, qui m'a conseillé d'y aller. Alors pourquoi pas, hein, avec les amis, ils ne changent pas d'avis. Et puis effectivement, en fait, on pioche. En fait, il y a tellement d'échanges, en fait, on pioche plein d'infos. Et je me suis dit que quand même toutes ces infos un jour elles nous serviront. Et effectivement, il y a parfois un exemple tout bête sur l'enfant. Il y a toujours un moment où son abandon va ressortir, va ressurgir. Et moi, quand c'est ressorti, je pense que si je n'avais pas été à EFA et si on ne m'avait pas mis en alerte là-dessus, je ne l'aurais pas entendu parce qu'elle ne m'a pas dit « Tiens, maman, il y a mon abandon qui ressort là, ça ne va pas. » Ça a été une petite phrase comme ça et, ça fait tilter en fait parce que les gens de EFA m'avaient mis en alerte. Et c'est là que j'ai compris que cette association était vraiment, vraiment, vraiment importante et qu'il fallait la faire vivre et continuer à la faire vivre.
Alors pour moi, ça s'est passé un peu différemment. Donc j'avais été invitée. Déjà, j'ai rencontré un membre de l'association lorsqu'on a fait le rendez-vous d'information à l'ASE. Ça s'appelait l'ASE. Et ensuite, on avait été conviés à une conférence sur le rôle de l'assistante sociale dans le parcours d'agrément. Et donc, c'était le premier contact. Puis, j'avais bien accroché puisque c'est ce qui se passe souvent à la fin des réunions où on peut échanger justement avec les autres personnes. Et je m'étais sentie comprise pour une fois parce que nous, on a eu un très long parcours de PMA et c'était pas forcément le cas de notre entourage et l'impression de pas... que les gens ne comprenaient pas forcément. Et là, on pouvait s'adresser à des gens qui savaient par quoi on était passé et qui nous donnaient aussi de l'espoir pour la suite. Donc, j'ai décidé de m'investir un peu plus dans l'association.
Et plus spécifiquement, justement, sur la projection qui est organisée lundi prochain. L'idée, finalement, c'est de s'adresser à qui au grand public pour déjà mieux connaître ou peut-être déjà aux familles, aux parents qui pensent à adopter. Qui est-ce que vous visez, finalement ?
Alors, le grand public, déjà pour qu'ils comprennent effectivement ce que peuvent ressentir, parce que malheureusement, les gens ne parlent jamais assez de leur ressenti, et ce qui fait qu'on pense penser ce que l'autre pense, mais on est toujours loin de la vérité. Peut-être aussi les familles qui hésitent à adopter, les familles qui sont dans un parcours de PMA, mais surtout aussi les professionnels, parce que nombre d'entre eux, concernant l'adoption nationale, savent que la loi a évolué depuis 2016 et qu'il faut, avant de faire des démarches concernant un enfant qui est en foyer et qui ne voit plus sa famille, qui n'a plus de nouvelles, qu'au bout d'un an, s'il n'y a plus de lien de qualité, c'est le terme qui a été rajouté, on peut faire des démarches pour qu'il y ait un abandon judiciaire. Et ça n'avance pas toujours assez vite. Pour nous, des fois, on entend encore, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps qu'un enfant de 15 ans se disait c'est dommage que je n'ai pas été adopté parce que voilà, je serais dans une bonne famille. C'est dommage.
Est-ce que vous pouvez peut-être, je ne sais pas si vous avez vu le film, mais en tout cas juste le présenter en quelques mots.
Alors, le film, en fait, c'est donc Madame Stéphanie Pilonka qui l'a réalisé, qui est allée voir des familles adoptantes, un homme qui recherche ses origines, et puis une ou deux personnes qui vont accoucher sous le secret. Donc, on suit ces personnes sur une période, tout simplement. C'est pas un film romancé, c'est vraiment suivre plusieurs personnes dans le déroulement de leur vie sur le thème de l'adoption.
Rien que la bande-annonce m'a fait pleurer, donc ça a fait écho chez moi. Parce que justement, il y a l'adoption d'un enfant pupille de l'État, donc je pense qu'il va falloir sortir les mouchoirs lundi.
Je suis une vieille adoptante, j'ai adopté en célibataire avec une adoption qui ne se fait plus puisque j'ai pris contact. En fait, j'ai eu mon agrément en juin 2007. J'ai été refusée par les organismes, les OAA, parce que trop jeune. Et du coup, j'ai écrit à tous les toutes les crèches. J'ai envoyé des mails à une quarantaine de crèches à Haïti. 4 m'ont répondu. Ils m'ont demandé de remplir un questionnaire avec des avis sur certains points. Et 3 m'ont proposé d'envoyer mon dossier. Donc, j'en ai choisi une au hasard. Et ça m'a permis d'avoir la plus belle rencontre de ma vie. Ils m'ont proposé une petite fille qui était née 2 mois plus tôt. Donc, le 24 août, j'avais un mail qui me demandait si j'acceptais cette petite enfant avec une photo. Donc, oui, bien sûr que oui. Haïti est un des pays qui propose un apparentement tôt. Donc, ils vous proposent d'adopter un enfant rapidement. Et après, ils font toutes les démarches. Et les démarches durent longtemps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en France, les fonctionnaires sont lents. C'est rien par rapport à Haïti, mais on m'avait prévenu. Donc, des fois, quand j'avais envie de secouer le cocotier, d'appeler le président d'Haïti pour dire « Dépêchez-vous, dites-leur de se dépêcher », je me disais « Bon, puis réagis en européenne. Là-bas, ils sont nonchalants, ça va moins vite, il faut le savoir. » Donc, voilà. Ça permet d'attendre, on m'avait prévenu. Il y a eu 2 ans de passé, quand on m'a dit « c'est bon, il ne reste plus que le passeport à aller chercher ». Donc ça, je me suis dit « il va venir rapidement », sauf que ça a traîné, puisque l'avocat avait changé, c'était un nouvel avocat, l'autre avait eu un accident, et l'autre ne savait pas trop demander les passeports, donc il a fait traîner tous les dossiers des autres parents au même endroit que moi, au niveau des passeports, et puis est arrivé le séisme en 2010. Et ma fille a été rapatriée au bout du troisième avion. Et puis je suis allée. On a fait notre rencontre à l'aéroport. Un très grand moment. Depuis, on s'est très vite adoptés mutuellement. Ça s'est fait très très vite. On a eu de la chance toutes les deux. Et puis voilà. Maintenant, elle grandit bien.
Nous, c'était différent puisqu'on adoptait en national. On avait un dossier pour une adoption en Thaïlande qui était en cours. Et puis, on a eu la surprise de recevoir un appel de la zone disant que le conseil de famille avait retenu notre candidature pour adopter un enfant pupille. Donc, ça, c'était au mois de mai. Donc, c'était un lundi. On nous a présenté ce petit garçon qui avait 3 mois. Et toute la semaine, on a fait sa rencontre. Et puis ensuite, toute la semaine, on l'a vu dans sa famille d'accueil. Et le vendredi, il est arrivé chez nous. Tout s'est fait en une semaine. Donc, c'était beaucoup plus rapide et un gros chamboulement dans nos vies. Mais on est ravis.
Et pour voir le film « C'est toi que j'attendais », il vous suffira de vous rendre au cinéma Le Palace de Château-Gontier ce lundi, projection à 20h30, ou également en présence de l'association APAEC, l'association des parents et adoptés en Colombie, et d'une personne de la PMI, la protection maternelle infantile, qui représente aussi le CNOP, qui permet de rechercher ses origines. On va passer à nos deux chroniques juste avant. On fait une petite pause en musique avec Sunny and the Sunliners, « Should I take you home ?»
The moon was shining as we stared at the sky. We were grooving as the time rolled by. We better not stay here alone. It's getting late, I better take you home. Your mama's worried, oh, what will she do? What will she tell me? What will she tell you? So baby, when I take you home, hold me by the hand. We told your mama that we'd be in by 8. She's probably wondering, oh, why we're late.
C'était Sunny and the Sunliners dans l'AJT du local sur l'autre radio. Évidemment, comme promis, on va passer à notre chronique sport. Salut Steven.
Salut Marie.
Et aujourd'hui, on va parler... Alors, c'était pas forcément évident, en tout cas pour moi, comme thème dans cette chronique, mais ça s'y rattache très bien. On va parler des jeux vidéo du e-sport.
Alors, en effet, depuis que le jeu vidéo existe, la compétition est l'un de ses principaux moteurs. Rappelez-vous ces bonnes vieilles bornes d'arcade où vous tentiez de vaincre les plus hauts scores, ou encore ces parties endiablées avec vos amis en écran séparé sur Mario Kart. Et que dire aujourd'hui du célèbre jeu Fortnite qui voit s'affronter entre eux une centaine de joueurs pour qu'il n'en reste plus qu'un seul en vie au final. Mais l'essor de l'e-sport et la multiplication de tournois aux récompenses de plus en plus importantes ont amené à la création d'équipes semi-professionnelles et professionnelles. Imitant les structures sportives, elles regroupent des joueurs sur un ou plusieurs jeux, ainsi que des coachs, des analystes stratégiques et même des commentateurs pour la retransmission des matchs en direct.
Et le e-sport, c'est d'ailleurs un moyen de travailler le mental et la cohésion d'équipe.
En effet, si l'e-sport n'est pas un sport au sens physique, il peut être qualifié de sport cérébral au même titre que les échecs et fait appel à de nombreuses capacités. La plupart des jeux compétitifs se jouent à plusieurs, avoir l'esprit d'équipe et savoir communiquer en français et en anglais sont indispensables. En effet, si la plupart des jeux sont disponibles en français, les membres des équipes e-sportives viennent, elles, des quatre coins du monde. Et par ailleurs, les termes liés au jeu sont souvent en anglais pour échanger stratégie et conseils.
Et puis, Steven, le e-sport, c'est aussi et surtout peut-être même un spectacle.
En effet, c'est un spectacle, même un show, on pourrait dire. L'e-sport ne se vit pas qu'en jouant aux jeux vidéo. Depuis quelques années, les grands événements se déroulent dans des salles de concert ou des stades, devant des milliers de spectateurs et des millions de téléspectateurs. Chaque compétition bénéficie d'une communication qui met en avant les joueurs et les coachs à grand renfort d'interviews. Si l'e-sport n'a pas pris cette dimension que dernièrement, c'est grâce à deux acteurs du milieu. Le premier, c'est Twitch, un site web de streaming créé en 2011 et racheté par le géant Amazon en 2014. Il permet de diffuser dans le monde entier les compétitions qui se déroulent chaque jour, touchant un large public. Le second est Riot Games, l'éditeur du jeu League of Legends, l'un des titres les plus joués au monde. Ce dernier a instauré en 2013 un championnat régulier, similaire au championnat NBA de basket aux États-Unis. Riot donne rendez-vous chaque semaine à ses fans pour voir s'affronter les meilleures équipes dont les joueurs reçoivent un salaire. Alors aujourd'hui, les fédérations, les ligues, les comités et les clubs de sport tentent de séduire un nouveau public, celui du e-sport, en lançant eux-mêmes des compétitions pour leurs licenciés. Par exemple, la Fédération de basketball a d'ailleurs lancé leur FFBB Hoops, tout comme la Ligue des Pays de Loire qui vient de lancer cette semaine la CICI Sport Cup, où d'ailleurs le club de Sud-Maine Basket sera représenté par son gamer Trouillé Johan.
Très bien, donc on peut retrouver là aussi complémentaire du sport physique, du sport
exactement.
En vrai peut-être, on peut dire quoi que. Donc merci en tout cas Steven pour cette chronique autour du e-sport. Je vous le disais, aujourd'hui, on est chanceux puisqu'on a deux chroniques, et notamment celle de Zélie.
Et si on parlait musique ?
La nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
Vous avez sûrement reconnu cette musique appelée L'odeur de l'essence. Elle se trouve sur le nouvel album d'Orelsan, Civilisation, sorti le 19 novembre 2021. Orelsan est un rappeur et compositeur français qui a sorti 4 albums solo de 2009 à 2021, comme La fête est finie ou Le chant des sirènes, mais aussi un album en duo avec Gringe appelé Orelsan et Gringe sont des casseurs flotteurs. Son nouvel album a été vendu en 2021 à plus de 340 000 exemplaires en un mois et 12 jours et écouté plus de 10 millions de fois en 24 heures sur Spotify. C'est le démarrage le plus rapide de l'année. Il a également vendu la première semaine plus de 113 000 exemplaires, dont 96 000 en physique, ce qui est une véritable prouesse pour 2021.
Mais pourquoi une véritable prouesse, Zélie ?
Eh bien, depuis les années 2000, la vente de CD est très faible, notamment à cause des plateformes d'écoute et en 2020 du Covid-19.
Mais alors, comment a fait Orelsan ?
Eh bien, il a fait faire des CD avec plusieurs designs représentant une des 15 chansons de son nouvel album ou une des couleurs qui se trouve sur le drapeau qui orne la pochette des CD. Chaque CD est édité en édition limitée entre 1200 et 30 000 exemplaires. Le rappeur a également caché 5 tickets d'or dans 5 albums, le ticket d'or permettant d'avoir des places à vie pour ses concerts. Ces éditions limitées ont été un sacré coup de marketing pour les auditeurs et les auditeurs se sont précipités sur l'achat de ces CD. Orelsan a fait les meilleures ventes d'albums en 2021 et on espère qu'il va continuer ainsi.
Merci beaucoup Zélie pour cette chronique musicale donc autour d'Orelsan et de là même sa stratégie marketing, j'ai l'impression c'était un peu ça que tu voulais nous mettre en avant. Merci beaucoup pour cette chronique et merci pour ce stage et à bientôt peut-être sur les ondes de l'autre radio. Quatrième épisode de notre feuilleton au foyer d'accueil à Laval pour 5 enfants suivis par la protection de l'enfance avec un handicap psychique et un parcours pas toujours évident. Une solution d'accueil temporaire pour recréer un cadre comme à la maison. La maison, le foyer d'accueil, est justement géré par des éducateurs de Domino Assystem, une agence de travail temporaire spécialisée. Témoignage de deux jeunes qui vivent dans ce foyer d'accueil et de Quentin, leur éducateur.
Oui, la piscine. Et hier, on est allé à l'aquabulle. Oui, là par exemple, à ma prison Sarge, et bon, bah, j'ai fait un gâteau aux pépites de chocolat. Bah oui, je me lève, je prends ma douche. Par exemple, ce matin, je me suis levée, j'ai déjeuné, j'ai pris ma douche. Après, je suis allée à l'école, après l'ITEP, voilà. Et après, je suis rentrée là. Des fois, je prends mon goûter, je regarde la télé. On s'amuse un peu avec les éducateurs et tout. Je suis en Ulysse et du coup, bah, on n'a pas trop de devoirs.
Jusqu'au temps, mon éducateur référent, et bah, il va m'inscrire dans les JSP. JSP, c'est jeunes sapeurs-pompiers, voilà. Oui, parce que c'est pour aider les gens, tout ça.
Ils peuvent entrer à 11 ans, c'est des petites initiations, et après à partir de 13 ans, là ils rentrent vraiment dans le vif du sujet. On est là à peu près tous les jours, on les connaît bien, et puis on essaye de faire au mieux pour eux finalement. S'ils ont un projet, après faut pas que ce soit des projets extraordinaires, mais JSP c'est possible. Par exemple, Asia veut faire de la gym, c'est tout à fait possible. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place et on les accompagne dans leur quotidien finalement. Bah, en fait, si on choisit l'intérim, c'est pas forcément pour se prendre des vacances comme on veut ni rien, parce que finalement, on est vraiment attaché à notre travail. Éducateur, c'est pas un métier comme les autres, c'est comme animateur, aide-soignant, etc. Et finalement, on est là quasiment tout le temps pour eux, quoi. Mais on a un groupe solide qui est jamais... on est toujours là, quoi. Il y a deux éducateurs pour un enfant, généralement. Il y a deux veilleurs de nuit et ça fonctionne. Bah, ils sont là de la nuit jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, il y a un éducateur qui vient pour les aider. Et après, bah, toute la journée, il y a des éducateurs qui arrivent, etc. Comme un boulot normal, hein, je dirais. Moi, j'ai toujours travaillé dans la jeunesse tout le temps. Et je me vois pas faire un autre métier que d'aider les jeunes, en fait, finalement. Et je pense que je ne sais faire que ça. C'est un métier, finalement, qui nous remplit de beaucoup de joie, de beaucoup d'émotions. Donc, c'est quand même super. J'ai beaucoup été directeur de centre de loisirs, etc. Et j'avais envie d'avoir un autre public, on va dire. Et je sais pas, mes collègues, les enfants d'ici, surtout l'individualité qu'on peut avoir avec les enfants sur leurs projets à long terme et sur leur vie. Là, c'est plus concret, on va dire.
L'ensemble des épisodes autour du foyer d'accueil est à retrouver sur l'autreradio.fr et un cinquième épisode bonus sera à retrouver dans les prochains agités du mois. On va passer, comme chaque vendredi, à notre agenda, en tout cas pour ce week-end. On vous conseille d'aller voir l'exposition 3615 à venir de l'artiste et designeuse Emmanuelle Roule au Centre d'art contemporain de Mayenne. À la chapelle des Calvériennes, c'est ouvert tout ce week-end. C'était une artiste qui était déjà présente lors de la Nuit Blanche en 2021 à Mayenne. Elle travaille notamment la terre pour ses objets, et l'exposition est visible jusqu'au 6 février. Vous pouvez aussi vous rendre à la médiathèque de Château-Gontier pour une autre exposition qui s'appelle Lux in Tenebris, une exposition interactive qui commence là la semaine prochaine, mardi prochain, le 1er février, et pendant tout le mois, donc jusqu'au 26 février, où là l'idée c'est de vous plonger dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros avec une tablette, un casque audio. Et donc c'est proposé à partir de 13 ans, mais sur réservation uniquement auprès de la médiathèque au 02 43 09 50 53. Et puis on vous propose aussi d'aller voir la semaine prochaine une conférence autour du manger bio. Est-ce un phénomène de mode ou une nécessité pour la santé et l'environnement? Ce sera tout l'objet de ce débat proposé mardi 1er février à 19h30 à l'IUT de Laval avec une nutritionniste, mais aussi une conseillère agricole. L'entrée est gratuite sur présentation du pass vaccinal. Voilà, c'est évidemment une sélection non exhaustive de ce que vous pouvez faire dans les prochains jours en Mayenne. C'est la fin de notre émission L'Agité du local pour aujourd'hui, vendredi. Mais restez avec nous, puisque ce soir à 20h, il y aura Passe-moi le thème avec des reprises de Serge Gainsbourg ce soir. Et puis ce week-end, demain, samedi à 11h, L'Enfant a des droits, un hommage au docteur Korchak. À 13h, Rock Dreams. À 17h, Bud Station. Et à 20h, émission spéciale, Les Inouïs du printemps de Bourges, avec le concert de 6 groupes qui se sont produits mardi au Stéréolux à Nantes. Vous pourrez donc réécouter ce concert demain à 20h. Et dimanche à 11h, retrouvez Sport Épique. Nous, on se retrouve lundi. Je vous souhaite un très bon week-end et une très belle journée.